à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Guillaume Cortès, bonjour.
Bonjour monsieur.
Je vous reçois aujourd'hui en tant que commissaire-priseur d'abord. Vous êtes commissaire-priseur à Toulouse, associé avec Maître Fournier.
Oui,
dans
c'est
une,
ça. Oui.
Une des études qui est dans le centre de Toulouse. Vous avez 6 enfants.
Oui.
Et vous êtes dans la paroisse La Chapellenie Saint-Jean-Baptiste.
C'est ça, oui,
c'est,
tout à fait.
C'est bien ça. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le métier de commissaire-priseur? Parce que je pense que tout le monde n'est pas très familiarisé avec cette profession.
Cette profession, alors c'est une profession qui est assez ancienne, qui date en gros d'Henri IV, mais qui existait déjà avant, qui permet d'être une aide à la justice, notamment les métiers, nous sommes pour une partie officiers ministériels. Pour une autre, c'est volontaire, et nous intervenons surtout dans le cadre des successions, au moment où il y a des partages qui arrivent, d'abord pour faire l'inventaire avec le notaire et donner les estimations des meubles ou objets de la succession, et ensuite pour faire le partage et avoir peut-être aussi des choses à la vente. Ça, c'est la partie un peu juridique. Et l'autre partie, c'est les ventes volontaires, c'est-à-dire les ventes où les personnes nous confient des objets, soit qu'on va trouver chez elles, ces personnes nous appellent pour faire des estimations, et on essaie de dénicher un bel objet que les personnes ne connaissent pas, chez elles, dans un tiroir, sur le coin d'un meuble, et qui, nous espérons, fera un gros prix à la vente.
Voilà. Voilà, c'est donc un métier d'argent. Partie.
C'est un métier d'argent, c'est un métier aussi beaucoup de où on peut aider les gens, plus que d'argent, on peut aider les gens.
Expliquez-nous comment on peut aider les gens. Vous venez de me dire que vous étiez quand même à l'affût de la bonne affaire, du bel objet.
La bonne affaire à vendre, oui.
Ouais.
On est à l'affût des beaux objets, c'est vrai, mais on peut aussi aider les gens ou bien dans les partages, ou bien dans les successions. Et aussi parce que quand on fait un inventaire dans une maison ou un appartement, les personnes ont des idées reçues sur certains objets ou les meubles et ne savent pas qu'au fond de l'armoire, ils ont une bouteille de chartreuse des années 30 qui vaut 5000 euros. Et donc on peut, par exemple, ça c'est un exemple, trouver un objet qui peut être un peu incongru ou un objet inconnu de la famille qui ressort... c'est-à-dire derrière les fagots, et qui va peut-être faire un bon prix à la vente, suivant les amateurs.
Si je comprends bien votre approche, vous êtes quand même quelqu'un qui est très engagé dans sa vie spirituelle et chrétienne, et qui donne du temps à sa communauté. Comment fait-on pour être chrétien dans ces métiers qui sont des métiers d'argent? Est-ce que...
Eh bien, on peut voir ce métier par un côté très, effectivement, un côté argent, en ne courant qu'après l'argent et en essayant de vendre des tas d'objets merveilleux qu'on trouve pas forcément dans les successions, mais qu'on peut trouver chez des marchands ou à Paris ou même ici en province. Le côté aide dans notre métier, tous les jours on peut aider ou bien des personnes à vendre un bel objet ou bien à découvrir cet objet et ensuite à le vendre, et aussi aider les gens qui viennent nous voir pour des expertises et qui ont besoin d'argent, une petite mamie par exemple qui va venir avec un sac, peut-être elle aura l'air un peu miteuse, mais si elle arrive à vendre pour 300 euros d'objets qu'elle a dans son sac, et ben c'est peut-être ça qui va réussir à lui faire tenir jusqu'au mois suivant. Et si vous refusez de prendre les objets de cette dame parce que vous considérez que ces objets n'ont aucun intérêt pour la vente, et bien quelque part vous privez cette dame d'une rentrée d'argent qui peut-être pour elle est essentielle. Pour vous, pas trop en tant que commissaire-priseur, parce que vous allez gagner un pourcentage sur la vente, mais qui sera très peu élevé. Et mais cette dame, par contre, vous pourrez l'aider parce que vous allez vendre quelque chose qui peut-être lui brise le cœur au moment de la vente, mais qui sera un apport d'argent pour elle.
Donc votre métier, c'est aussi d'être à l'écoute des personnes et de les aider à s'y retrouver dans ce monde un peu compliqué, parce que quand on ne s'est pas frotté à ce genre de pratique de vente ou d'achat par l'intermédiaire de commissaires-priseurs, je pense qu'on est un peu démuni face à ça.
Oui, c'est vrai, on est un peu démuni parce qu'on ne connaît pas les prix des objets, on ne sait pas quels objets ont de la valeur. Et on ne sait pas comment les vendre non plus, à qui s'adresser. Si vous êtes, de temps en temps, vous avez une personne qui va venir avec quelque chose, on va dire, j'ai une assiette très ancienne qui est à ma grand-mère. Quand vous allez voir l'assiette, vous serez un peu déçu parce que c'est des assiettes que vous trouvez tous les jours dans les successions et qui ne valent rien. Mais en revanche, elle aura peut-être au fond du sac une montre de Gousset en or qui pour elle n'a aucun intérêt parce qu'elle ne vient pas de la grand-mère et qu'elle était peut-être à l'arrière-grand-père et qu'elle ne connaissait pas cet objet et qui vaudra un gros prix. Donc on donne un peu des indications ou sur les objets ou sur la façon de les vendre au meilleur moment.
Alors les commissaires-priseurs n'ont pas toujours bonne presse. On entend parfois dire qu'ils se sont trompés dans les estimations, qu'il y a une collusion avec certains marchands. Est-ce que tout ça relève de la légende ou est-ce que c'est un peu vrai ?
Il y a un côté un peu légende et un côté un peu vrai. C'est-à-dire que la façon ancienne de travailler, et nous, dans notre étude, on travaille un peu comme ça, c'est de vivre notre métier, déjà pour au service un peu des gens, même si on doit gagner notre vie, pour les aider à vendre le mieux possible. Et ensuite, il faut être attentif, déjà à faire une bonne estimation. Le commissaire priseur n'est pas infaillible, mais il a vocation à se tromper le moins possible pour donner toute la valeur à chaque objet, qui vont d'une montre de Gousset à un tableau peut-être de Rembrandt ou de Picasso. Et si vous passez à côté de l'assiette de Picasso au fond du placard, eh bien vous passez à côté de 15 000 euros que peut-être un marchand achètera dans la vente courante dans un lot, parce que le commissaire-priseur ne sera pas allé à fond et n'aura pas cherché au fond du placard. Et c'est le marchand qui l'aura acheté, en toute honnêteté. Il l'aura acheté dans un lot et cette assiette, il pourra la revendre 15-20 000 euros. Et là, le commissaire-priseur est passé à côté de son vrai travail. Et c'est un métier, certes, où il faut gagner sa vie parce que notre vocation humaine est dans un métier, c'est de gagner sa vie, mais il faut aussi se décarcasser et ne pas avoir peur de mouiller sa chemise ou de se salir en montant dans le grenier ou en allant dans la cave chercher un bon Pétrus ou un Ikem.
Ouais. Ça, on est toujours preneur, mais qu'est-ce qui vous différencie finalement d'un antiquaire lambda sur cet aspect du métier en tout cas?
L'aspect du métier, la différence avec un antiquaire, c'est que l'antiquaire, lui, doit acheter l'objet pour le revendre le plus cher possible et c'est son métier pour gagner sa vie. Nous ne vendons pas les objets pour nous puisque nous ne les achetons pas. Nous les vendons pour les personnes qui nous les confient. Donc c'est un contrat de mandat. Ouais. On est mandaté pour vendre l'objet et le mieux possible en essayant de faire une bonne estimation au départ qui peut être parfois un peu faible. Et le jeu des enchères fera peut-être que cette estimation sera quadruplée, décuplée.
Et je pense qu'une des questions que se posent beaucoup, beaucoup de personnes vous concernant, c'est si on pense qu'on a un bel objet dans sa famille, dans sa maison, on se dit que ça serait peut-être mieux de le vendre là où il y a beaucoup d'acheteurs potentiels, c'est-à-dire à Paris ou à Londres. Est-ce que c'est vrai ?
Alors aujourd'hui, c'est plus vrai, parce qu'il y a Internet qui nous aide énormément. Nous faisons les ventes en vrai dans la salle, avec des personnes qui achètent, qui sont présentes en salle. Mais nous faisons aussi la vente en live, donc avec l'aide d'Internet. Et finalement, la salle des ventes s'est élargie, aux frontières d'Internet qui sont presque illimitées. Donc si vous vendez un bon objet à Toulouse demain, il a toutes les chances d'être vendu
aussi bien
à Toulouse qu'à Paris et acheté par le bon acheteur. Nous avons vendu au mois de juin un très beau tableau d'une école espagnole 17e et c'est un madrilène qui l'a acheté parce que c'était un tableau de Madrid. Et l'année dernière, nous avons vendu un pigeon de Lalanne, qui était un objet, une lampe assez fabuleuse, qui a été très bien vendu à Toulouse, aussi bien qu'à Paris, grâce à Internet et bon, aussi grâce au... quand on déploie toute notre ingéniosité pour faire la publicité.
Et alors, dernière question, puis on passera à un autre sujet, mais comment fait-on pour devenir commissaire-priseur ?
Pour devenir commissaire-priseur, eh bien, il faut avoir un diplôme de droit et un diplôme d'histoire de l'art, que vous passez à la faculté, ou certes, il y a une formation maintenant qui est un petit peu renforcée, et ensuite on passe à un examen national, avec ces qui sanctionne à la fin de l'examen, vous avez une note qui vous donne accès à un stage de 2 ans de commissaire-priseur et vous avez une formation qui est donnée chaque année et chaque année vous avez un examen qui est assez sévère et à la fin des 2 ans vous êtes commissaire-priseur.
Oui, c'est pas.
Ceci dit, le cœur du métier, vous l'apprenez
sur le terrain.
Sur le terrain, plus ouais. que dans les bouquins.
Voilà. Il y a combien d'études à Toulouse ?
À Toulouse, il doit bien y avoir presque une dizaine d'études, ce qui est, ou au moins une dizaine de commissaires-priseurs, ce qui est beaucoup pour une ville de province, mais c'est une ville qui se maintient bien avec ce nombre de commissaires-priseurs. C'est signe qu'il y a assez d'affaires pour que tout le monde vive. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Alors, je l'ai dit en vous présentant, vous avez 6 enfants.
Oui.
D'après ce que je sais, ils sont tous dans l'enseignement catholique privé,
oui.
Sous contrat, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Parce que quand on a des enfants, une bonne collection comme ça, on a envie de leur transmettre ce qu'on a reçu, et aussi de les mettre dans des conditions qui sont proches de celles que vous avez à la maison. Donc avec une continuité dans la formation, j'allais dire intellectuelle, c'est une chose, mais morale et aussi chrétienne. Et c'est plus dans ces écoles que vous allez trouver, même si les écoles, les écoles publiques ont des très bonnes formations par les professeurs qui s'y trouvent. Vous trouverez peut-être un climat plus familial dans les écoles privées, et ce qui permet aussi aux enfants de grandir aussi dans un cadre un peu plus familial aussi, comme à la maison.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'enseignement privé catholique ?
Une bonne formation d'humanité, français, maths, histoire, géo. Un enseignement sur nos racines judéo-chrétiennes, c'est-à-dire comprendre un peu toute les humanités d'autrefois, si on peut dire. Mais aussi une formation un peu morale. En continuité à ce qu'ils apprennent à la maison, et aussi une formation qui les pousse à être chrétiens aussi dans leur vie, soit par le catéchisme, soit aussi par les amis qu'ils rencontrent, et grâce à ces amis qui peuvent être des bons amis, avoir dans le monde aujourd'hui qui est un peu agité, avoir des amis qui sont des bons supports, j'allais dire, ou des bons... des bonnes amitiés qui vont durer toute la vie et grâce à ces amitiés ils pourront se serrer les coudes et vivre leur vie.
Et est-ce que les attentes que vous avez, vous les trouvez dans les écoles que vous fréquentez ?
Mais toutes les écoles ne sont pas toutes parfaites.
On reproche parfois à l'enseignement privé, et notamment l'enseignement chrétien privé, catholique en particulier, par exemple d'avoir des cours de catéchisme facultatifs qui sont à des heures pendant les récréations ou à des heures impossibles, qui fait que très peu d'enfants veulent y aller, etc. Donc, est-ce que vous avez cette expérience aussi ?
Après, oui, c'est vrai que peut-être parfois c'est un peu léger au niveau du catéchisme, mais c'est à nous de compléter, et à la maison ou avec la paroisse, faire partie d'un groupe... un groupe de catéchisme à la paroisse ou un groupe de formation... intellectuelle et chrétienne ou bien philosophique ou théologique. En plus, théologique, bon, pour les enfants c'est un peu haut, mais si vous ne la trouvez pas à l'école, c'est vrai que les écoles ils ont déjà l'enseignement général à enseigner aux élèves, ce qui est déjà assez compliqué aujourd'hui, et bien on peut le trouver ailleurs, dans la paroisse notamment, mais il faut le faire en plus.
Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait rendre dans les écoles chrétiennes le catéchisme obligatoire, même si les gens ne sont pas forcément venus là pour chercher ça?
Oui, moi je pense que les écoles chrétiennes ont cette chance de pouvoir apporter une formation qui est une formation, j'allais dire, à la suite de Jésus, une formation de l'amour aussi. C'est quand même une religion, la religion de l'amour. Si on peut, même des personnes qui d'ailleurs ne seront pas contre cette formation, une formation générale chrétienne qui leur permettra de découvrir s'ils ne sont pas de cette religion ou ne croient pas Jésus-Christ, pourront trouver une formation humaine et chrétienne qui pourra aussi ouvrir leur esprit en plus de tout ce qu'ils reçoivent à l'école. Moi, je pense que c'est dans une école chrétienne, si on met des enfants dans une école chrétienne ou privée catholique, eh bien, on attend de cette école qu'elle donne une formation catholique chrétienne.
Bah écoutez, c'est un point de vue qui sera sûrement apprécié par certains et peut-être prêtera discussion auprès d'autres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enseignement catholique dans la plupart des écoles catholiques, privées, sous contrat ou hors contrat, mais reste optionnel, reste facultatif. Et c'est vrai, pour parler de mon expérience personnelle, moi je suis un ancien du Kaozu. Quand j'étais au Kaozu, j'étais pensionnaire, tous les matins on passait par la chapelle. Et, on n'était pas obligé de faire une prière, mais on ne prenez pas un petit déjeuner sans avoir fait une prière collective. Et je pense que tout ça, c'est un peu perdu. Peut-être certains le regrettent. En tout cas, moi, c'est ce qui me revient aux oreilles. Et l'idée qu'il y a d'autres lieux pour trouver cet accompagnement spirituel avec des camarades qui n'est pas uniquement le lieu familial, mais en dehors du lieu familial, cette idée que vous avez soulevée, bon, existe, mais c'est peut-être un peu un palliatif par rapport au fait que ce serait dans une école qui se revendique chrétienne, ça paraîtrait logique. C'est un débat qui est un débat d'éducation toujours passionnant. Je sais aussi, pour changer de sujet, que vous êtes régulièrement à l'abbaye de la Grâce. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire ce que vous y trouvez et nous dire comment ça fonctionne?
Alors oui, je peux parler de l'abbaye de la Grâce. On a quand même la chance à Toulouse d'avoir une grande richesse déjà dans Toulouse de formation qu'on peut trouver un peu à l'intérieur intramuros. Il y a les dominicains, les carmes, vous avez des tas de paroisses qui sont très actives. Et on a aussi la chance à Toulouse d'avoir des tas de monastères un peu satellites de Toulouse. Vous avez l'abbaye du Pesquier, le monastère, l'abbaye de Boulor, Ancalcate, Asie. Et vous avez aussi l'abbaye de la Grâce, donc certaines abbayes sont un peu plus éloignées, mais à peu près à 1 heure de route ou 1 heure et quart de route, vous pouvez trouver une abbaye qui est aussi pour nous, dans notre monde et notre vie agitée, un lieu de calme et de repos. C'est un peu comme si on montait comme Moïse monte sur la montagne au Sinaï pour rencontrer le bon Dieu. Et bien nous, on a cette chance de pouvoir, en plus de tout ce qu'on a à Toulouse, pouvoir s'échapper, s'évader un peu et trouver des monastères alentours, notamment l'abbaye de la Grâce, où les chanoines, donc ce sont des chanoines réguliers qui ont la règle de Saint-Augustin, vous accueillent et ont une vocation particulière qui est de s'occuper des familles. Donc ils sont évidemment, quand vous allez là-bas pour la messe un dimanche, eh bien, vous trouvez des tas de familles, vous vous dites quelle est cette abbaye curieuse où moines et familles sont un peu mélangés. Eh bien, en fait, à la messe du dimanche, vous trouvez des familles qui viennent un peu se ressourcer, se reposer, et dans le calme, et aussi dans la beauté du monastère, enfin de l'abbaye de la Grâce, qui est une très belle abbaye, d'ailleurs monument historique.
Et là, évidemment, vous y allez avec toute votre petite famille. Enfin, petite famille, 6 enfants, ça fait voilà, déjà une grosse voiture.
Ça tient dans une voiture, effectivement. Et on y va presque une fois par mois. On essaye d'aller à la Grasse parce que c'est source de paix aussi. On y va pour la messe qui est à 10h30. Et puis, on passe la journée, on pique-nique, on peut avoir un entretien avec un des chanoines, s'il y a besoin, ou vous avez aussi les frères qui jouent au ballon avec les enfants, et on passe une excellente journée. C'est très beau, et la campagne autour est très belle. Et en plus, on a la chance d'avoir du calme, de la beauté, et vous savez que la beauté est le reflet de Dieu. Et ça nous élève un peu et nous sort de notre quotidien.
C'est vrai que c'est une très très belle abbaye que je connais aussi un petit peu. Alors il y a eu cet ouvrage dont on a beaucoup parlé, qui est sorti à la fin de l'année dernière, qui s'appelle « 3 jours et 3 nuits », où une quarantaine d'auteurs, dont des auteurs très célèbres, sont venus à la Grasse et ont raconté leur expérience. Alors j'en cite quelques-uns de ces auteurs, Sylvain Tesson, Frédéric Becbédé, Camille Pascal, Jean-Paul Etthoven, Jean-Marie Rouard, l'académicien, François-Olivier de Gisbert, le journaliste, Pascal Bruckner, le philosophe essayiste, enfin des personnalités de très haut niveau qui sont venues à la Grasse. Pas toutes très pratiquantes ou même croyantes. Croyantes, ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette démarche de la part des abbés d'abord ?
Alors, on peut penser que c'est une démarche un peu curieuse, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir en fait un point de vue extérieur. Alors c'est vrai que quand on va à l'abbaye de la Grasse, on est reçu dans le calme ou la joie aussi, hein, mais on y va un peu pour une petite retraite, une mini retraite. Et ces auteurs ont montré qu'effectivement, eux, n'étant certains, sont même non-croyants ou peut-être agnostiques, ont montré que cette retraite n'était pas mauvaise pour eux et qu'ils en trouvaient peut-être pas un réconfort, mais ça leur a donné une autre idée d'un monastère, peut-être qu'ils croyaient un peu éloigné de
Besoin de transcendance.
Le besoin de transcendance, le besoin de calme, c'est assez...
De spiritualité.
Certaines réflexions sont assez désopilantes, voilà, quand ils racontent tout ce qu'ils ont, le peu de jours qu'ils ont vécu là-bas, et c'est quand même assez, assez poignant aussi de voir que ces gens qui sont assez connus et qui ont des vies sont à l'heure, se sont reposés, se sont arrêtés et ils ont pu exprimer un peu
Alors Guillaume Cortès, vous savez qu'il y a eu une polémique quand même autour de cet ouvrage. Beaucoup de gens ont critiqué en disant que c'est du marketing, en disant mais finalement ils sont allés chercher des gens qui n'ont rien à voir avec les pratiques religieuses, etc. Est-ce que vous pensez que si ce genre de démarche est utile pour des lieux comme une abbaye ?
Moi, je pense que c'est... Alors, on peut critiquer le fait qu'ils aient pris des tas d'auteurs connus et qui étaient loin de leur vie. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une vision aussi un peu ouverte sur cette vie... à côté de notre vie, c'est-à-dire il prie et il pense à nous tous les jours et ils ont une vie monacale, une vie de prière, mais ils nous oublient pas et je pense qu'ils voulaient mêler aussi ce quotidien que nous vivons quasiment tous les jours aussi. Et ils voulaient montrer que les deux n'étaient pas séparés et qu'il y avait un lien en fait dans cette retraite de la vie et notre vie réelle.
Bien, écoutez, Guillaume Cortès, merci beaucoup pour ce témoignage passionnant.
Je vous en prie, merci de m'avoir reçu.
Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.